Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode avec l'autrice Jida Ayad. Aujourd'hui, nous allons parler de l'organisation d'une cuisine sans gluten pour éviter la contamination croisée. Parce que bon, imaginons un peu la situation, on passe des heures à éplucher chaque étiquette au supermarché.
Ouais, avec une vigilance absolue, quoi.
C'est ça, on s'assure vraiment qu'aucun ingrédient interdit ne passe la porte d'entrée et puis bam, on tombe malade. Avec des symptômes inexpliqués juste à cause d'une pauvre cuillère en bois oubliée dans un tiroir.
C'est malheureusement la réalité invisible et très frustrante que vivent plein de gens au quotidien.
Tellement. Et pour nous guider aujourd'hui, notre texte source est vraiment super solide et ancré dans le réel. L'autrice est non seulement docteure en sciences agronomiques et enseignante-chercheuse, mais en plus, elle est nutritionniste spécialiste du sans gluten. Et le détail qui change tout, c'est qu'elle est elle-même cœliaque.
Ah, mais c'est exactement cette double casquette qui rend cette exploration si précieuse. On n'a pas du tout affaire à un traité médical froid. C'est de la rigueur scientifique mêlée à la réalité tangible, un peu chaotique de la maison.
Ouais, la vraie vie, quoi.
Voilà. Elle aborde ça avec une grande douceur, parce qu'elle comprend intimement cette fameuse charge mentale.
Mais même avec un régime sans gluten ultra strict, on peut quand même avoir des symptômes à cause de contaminations croisées invisibles dans la cuisine.
Invisible, oui, c'est le mot-clé.
Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'en appliquant des principes d'organisation tout simples, on peut transformer sa cuisine en un espace super sûr, sans avoir à tout jeter.
C'est vraiment tout l'enjeu de notre discussion d'aujourd'hui. Le but de cette plongée au cœur du sujet, c'est d'abord de comprendre le pourquoi.
Pourquoi ça pose problème ?
Exactement. Pourquoi ces traces invisibles déclenchent de telles choses sur le plan biologique ? Et ensuite, d'explorer le guide pratique pour sécuriser cet espace.
Alors, décortiquons un peu ça, si tu veux bien. Avant de trier les placards, il faut s'arrêter sur la biologie. Pourquoi des symptômes comme une grosse fatigue ou des douleurs continuent chez des gens qui font pourtant tout parfaitement ?
En fait, pour comprendre ça, il faut vraiment s'éloigner de l'idée d'une simple intolérance digestive, genre comme avec le lactose.
Oui, ou c'est juste un inconfort, un peu de mal à digérer.
C'est ça. La mécanique de la maladie cœliaque, c'est radicalement différent. C'est une réaction immunitaire sévère, une maladie auto-immune.
Le corps qui se défend contre lui-même, en gros.
Voilà. Le système immunitaire perçoit le gluten comme une menace mortelle, il surréagit, et dans la bataille, il attaque la propre paroi de l'intestin grêle de la personne.
Et c'est là qu'entrent en jeu les fameuses villosités intestinales.
Ces petites structures qui tapissent sur le fond de l'intestin. C'est en plein ça. Faut imaginer l'intestin sain, non pas comme un tuyau lisse, mais comme une moquette hyper épaisse. Ou une forêt dense avec plein de petits replis.
Pour bien absorber les nutriments, le fer, tout ça.
Exactement. Mais lors de cette attaque immunitaire déclenchée par le gluten, ces villosités sont littéralement rasées. La belle moquette épaisse devient un sol en linoléum tout plat.
Ah ouais, ce qui explique totalement la fatigue et les carences vitales. Si la moquette est rasée, le corps a beau recevoir de la bonne nourriture, il peut plus l'absorber.
C'est une super image. Le corps crie famine au milieu de l'abondance, quoi. Et le point crucial, c'est la quantité de gluten qu'il faut pour déclencher ce carnage.
On parle pas d'une part de pizza entière avalée par erreur, on est d'accord.
Ah non, pas du tout. Quelques milligrammes suffisent pour réactiver l'armée immunitaire. Une simple petite miette de pain. Donc la cuisine devient vraiment le premier rempart médical.
Du coup, si on doit visualiser ce danger invisible dans une cuisine mixte, moi j'ai une analogie en tête. C'est un peu comme des paillettes fines après une grosse fête.
Ah oui, l'enfer des paillettes.
Mais grave, on a balayé, on a passé l'aspi, la pièce a l'air nickel. Et pourtant, trois jours après, bam, on retrouve une paillette brillante sur la table, une autre coincée dans le canapé.
Ça s'enfiltre absolument partout.
Le gluten, dans une cuisine, c'est pareil. Ça laisse des résidus qu'on voit pas, mais qui sont là.
Ce qui est fascinant ici, c'est que ça impose de changer de point de vue. L'ennemi, c'est plus l'aliment, vu qu'on l'achète plus. L'ennemi, c'est la trace, la fine poussière de farine dans la rainure du tiroir.
Et vu que ce danger est microscopique, où est-ce qu'il se cache ? La chasse aux ustensiles pièges, moi, ça m'a bluffé. La première chose qui est pointée du doigt, c'est la passoire.
La fameuse passoire.
Mais attends, une passoire en inox qu'on passe au lave-vaisselle à 70 degrés avec un bon détergent, ça suffit pas.
C'est très logique de penser ça, mais c'est oublier la structure physique de l'objet. La passoire, c'est un véritable filet à gluten. Les trous, les mailles métalliques croisées, c'est parfait pour coincer l'amidon.
Ah, les petits recoins impossibles à attendre.
Exactement. Et le pire, c'est que l'eau très chaude du lave-vaisselle peut faire coaguler ou cuire ces micro-particules dans les trous. ce qui les rend indélogeables.
Oh waouh, c'est redoutable. Ensuite, il y a le bois. Et là, ça touche presque à l'affectif, tu vois. La vieille cuillère en bois de mamie, la belle planche à découper. Pourquoi il faut s'en méfier à ce point?
Le bois, c'est beau, mais c'est un matériau vivant et surtout poreux. Avec l'humidité, la chaleur, les coups de couteau, ça crée des micro-fissures, de vrais petits canyons à l'échelle de la cuisine.
Et nos fameuses paillettes de gluten tombent dedans.
C'est ça. Elles y restent coincées avec l'humidité et même en frottant super fort, l'éponge n'atteint jamais le fond de la fissure.
Bon, la passoire et le bois, ok. Mais le champion incontesté de la contamination croisée, c'est le grille-pain. J'essaie de capter la mécanique. Si ma tranche sans gluten touche pas les bords brûlants, où est le danger?
C'est lié au mouvement et à l'accumulation. Le fond du grille-pain, c'est un cimetière de miettes classiques. Quand tu allumes la résistance, les courants d'air chaud font s'envoler ces miettes.
Ah, elles volent et elles retombent sur la tartine saine.
Absolument. C'est un environnement hyper confiné et saturé de traces.
Franchement, je me mets à la place d'un parent dont l'enfant vient d'être diagnostiqué cœliaque. L'angoisse monte super vite. On a envie de tout jeter par la fenêtre. Est-ce qu'il faut se ruiner et racheter une cuisine clinique?
Il y a une vraie douceur dans le texte pour désamorcer ça, justement. Le but, c'est pas de faire un séisme financier. On identifie les risques et on adapte.
On privilégie les trucs lisses, du coup.
Voilà. Pour remplacer le bois, on prend de l'inox, du verre ou une bonne planche à découper en plastique, bien lisse. Ça coûte 3 € et ça empêche le gluten de s'agripper.
Et pour ce satané grille-pain concentrateur de miettes?
Solution brillante de simplicité, les sachets de cuisson pour grille-pain. Tu glisses ta tartine sans gluten dans le sachet réutilisable, tu mets le tout dans la fente et c'est protégé.
C'est génial, pas besoin d'en acheter un deuxième si on a une toute petite cuisine. Mais bon, une fois qu'on a notre belle planche et nos sachets, comment on organise l'espace quand le reste de la famille mange du gluten?
C'est là qu'intervient le système de zoning.
Ah, ça c'est vraiment intéressant.
Le zoning, c'est la clé de voûte. Il y a 3 zones de défense. La zone 1, c'est le placard exclusif sans gluten. Et le truc fondamental, c'est qu'il doit toujours être en hauteur.
Oui, la loi de la gravité. J'ai trouvé ça tellement ingénieux. Parce que bon, quand on ouvre un paquet de farine de blé normal, ça fait un genre de micro-nuage de poussière blanche.
Un nuage très volatile, ouais, qui flotte et puis qui finit par retomber inexorablement.
Donc, si tes pâtes sans gluten font ranger en dessous, elles se prennent cette neige toxique sans que tu le vois. En les mettant tout en haut, elles sont au-dessus du nuage.
C'est de la physique pure et ça marche. Ensuite, zone 2, le plan de travail. On dédie un côté précis, à droite ou à gauche, uniquement pour le sans gluten.
Et on le nettoie en premier, c'est ça?
La préséance chronologique.
Exactement.
On nettoie avec une éponge exclusive et on prépare les places sans gluten avant même de sortir la farine de blé du placard. On évite de croiser les flux.
De l'ingénierie spatiale pour la maison, quoi. Et la zone 3?
La zone 3, c'est le rangement des ustensiles. On les regroupe dans un tiroir spécifique. Et l'astuce en plus, c'est le code couleur.
Oui, le code couleur pour la charge mentale, c'est fabuleux. Genre, on décide que tout ce qui est sans gluten a un manche vert ou bleu.
C'est parfait pour un ado pressé qui se fait un sandwich. Il se fait pas la question, l'œil voit le vert, le cerveau valide la sécurité directe.
Pas besoin de réfléchir. Et ce qui est cool, c'est que ça marche aussi bien dans une cuisine géante que dans un studio étudiant. C'est juste de la méthode.
Tout à fait. Et d'ailleurs, la règle de la gravité, elle s'applique aussi au réfrigérateur.
C'est vrai que le frigo, avec l'air qui circule et les emballages ouverts, c'est critique.
Très dangereux s'il n'est pas maîtrisé. Donc, même logique, l'étagère la plus haute pour les produits sans gluten entamés. Au milieu, les aliments naturellement sans gluten, comme les fruits ou les légumes.
Et les trucs au blé tout en bas, dans la zone de chute. Comme ça, si une troute de tarte s'effrite, ça tombe par terre et ça contamine pas les légumes.
Voilà. Et on utilise des boîtes hermétiques. Mais attention, le frigo cache un autre piège, lié aux habitudes. Les condiments partagés.
Ah, le problème du couteau baladeur.
Le fameux. Quelqu'un beurre sa tartine de pain de campagne. Le couteau ramasse des dizaines de miettes et par automatisme, hop, on le replonge dans le pot de confiture commun.
Et paf, le pot est fichu pour la personne cœliaque.
Imparable. L'autrice préconise des pots séparés, ou mieux, des flacons souples à presser. Pas de couteau, pas de contamination. Et dans la foulée, elle pointe les 3 erreurs fatales de la cuisson.
On a parlé du grille-pain, mais il reste l'eau et l'huile. Qu'est-ce que ça implique très concrètement si, pour aller vite, je cuis mes pâtes sans gluten dans l'eau qui vient juste de servir pour des pâtes au blé? C'est grave? L'eau bouillante assainit pas le truc?
Ah non, surtout pas. Ça annule instantanément tous tes efforts de nettoyage. Faut oublier cette idée de l'eau bouillante qui désinfecte, parce qu'on parle pas de bactéries.
Donc l'eau devient quoi ?
Elle devient ce que l'autrice appelle un véritable bouillon de gluten.
L'expression est super forte, mais c'est vrai, l'eau des pâtes devient toute blanche, saturée d'amidon.
C'est exactement ça. Le liquide est saturé, donc si tu plonges des pâtes sans gluten dedans, elles vont s'hydrater et s'imprégner totalement de cette protéine toxique.
Ah oui, c'est un vecteur de contamination massif, donc eau de cuisson séparée et bain de friction distincte, c'est non négociable.
Non négociable pour préserver les villosités intestinales, ouais.
Bon, ok pour les liquides, hein. Mais il reste l'éléphant dans la pièce, l'appareil qu'on peut très difficilement dédoubler. Le four. Est-ce qu'on peut vraiment faire cuire un plat sain dans un four qui a chauffé une pizza au blé la veille ?
La réponse est oui, on peut partager un four. Mais à condition de casser une idée reçue. Plein de gens pensent que la chaleur extrême, genre 200 degrés, va tuer le gluten.
Mais comme on disait, c'est une molécule, une protéine, c'est pas vivant ?
Exactement. Même calcinée, la miette de pain garde sa signature protéique. Le danger, c'est pas une vapeur liée à la chaleur, ce sont les éléments physiques.
Les miettes déplacées par l'air.
Surtout avec la chaleur tournante des fours modernes.
C'est un vrai ventilateur. Il soulève les résidus du fond et les dépose doucement sur ton plat sans gluten au milieu. Alors c'est quoi la parade, si on n'achète pas un deuxième four à nos ?
De la discipline, du papier cuisson neuf pour isoler la plaque, un nettoyage hyper régulier du fond et des parois. Et surtout, on évite de cuire une préparation super poudreuse à base de blé en même temps que le plat sans gluten.
Bon, sens absolu. En fait, quand on prend du recul, c'est pas si cher ni si dur techniquement. On parle d'une planche en plastique, de papier cuisson et de rangement malin. Le vrai mur à franchir, il est ailleurs.
Ça soulève la question la plus importante, oui, et c'est la belle réflexion finale de l'autrice. Le plus dur, c'est la dimension humaine, la cohabitation.
Convaincre l'entourage, en fait. Expliquer à des gens qui ne sont pas malades qu'ils doivent changer des automatismes ancrés depuis l'enfance.
C'est épuisant, c'est une négociation perpétuelle pour qu'ils fassent attention aux petits détails, même quand tu ne l'es pas là pour surveiller le pot de confiture.
Il faut tout le temps expliquer pourquoi on ne se coupe pas la passoire, pourquoi l'éponge de gauche est interdite, expliquer le pourquoi médical, l'attaque des villosités, pour qu'ils respectent le comment.
C'est ça. C'est par l'empathie et la compréhension que naît la véritable adhésion. Ça transforme une contrainte froide en un vrai acte d'amour au sein du foyer.
C'est vraiment magnifique. Et ça m'amène à une toute dernière réflexion qui prolonge tout ça. Si à l'intérieur d'un foyer aimant et dévoué, il faut une telle rigueur spatiale et une communication constante pour éviter la maladie...
C'est vertigineux d'imaginer ce que ça implique à l'extérieur, dans l'espace public.
Mais oui, dans les restos, les boulangeries, les cuisines partagées au bureau, ces frontières invisibles et ce zoning n'y existent pas du tout. Les fameux bouillons de gluten y sont rois.
Ça donne une toute autre dimension à la difficulté de manger dehors.
Ça force un respect immense face au courage et à la vigilance que doivent maintenir ces personnes chaque fois qu'elles sortent de chez elles.
Absolument.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.